franceinter.fr.
Voilà, de l'eau, la quête de l'eau à la surface des exoplanètes, une obsession pour les scientifiques qui cherchent de la vie ailleurs. Et aujourd'hui, à la une de la science, le système planétaire TRAPPIST-1, découvert donc il y a un an, et la connaissance de ces planètes qui avancent à grands pas. Ce système de 7 mondes, tous plus ou moins gros comme la Terre, orbite autour donc d'une étoile naine à quelques 39 années-lumière de nous. Et les chercheurs pensent aujourd'hui que plusieurs de ces planètes abritent de l'eau en grande quantité et donc des conditions propices par endroit au maintien de la vie. Axel en fait le tour de ces petits mondes. Avec
oui, Mathieu.
Notre invité.
On est en ligne avec le planétologue Franck Celsis depuis les locaux de France Bleu à Bordeaux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur pour le CNRS au LAB, le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, spécialiste des exoplanètes et de leur atmosphère. Alors, le système TRAPPIST-1, c'est un peu devenu la star des systèmes exoplanétaires aujourd'hui. C'est un peu le Graal pour vous, il y a tout ce qu'il faut, non ?
Oui, c'est un système assez exceptionnel. Alors, on connaît beaucoup d'exoplanètes, plusieurs milliers. Et on accroît la fraction d'entre elles qui sont de taille terrestre, mais souvent c'est assez frustrant, c'est-à-dire que on a parfois une estimation de la taille, parfois de la masse, mais rarement ou quasiment jamais des deux, et souvent aucune perspective avec les instruments actuels ou à venir de pouvoir sonder leurs atmosphères. Là, avec TRAPPIST-1, pour différentes raisons, parce que son étoile est toute petite, mais très proche de nous, on a la capacité d'avoir à la fois une très bonne estimation de leur taille par les transits, c'est-à-dire quand la planète passe devant l'étoile à chaque période orbitale. Et on a aussi, en étudiant les interactions gravitationnelles des planètes entre elles, qui créent des irrégularités sur les orbites, la possibilité de remonter à leur masse. Et enfin, on a la possibilité de sonder leurs atmosphères. Alors une première tentative vient d'être effectuée avec Hubble, qui a permis de montrer qu'il n'y avait pas d'atmosphère riche en hydrogène comme on trouve autour de Uranus, Neptune, Jupiter, Saturne. Et à partir de 2019, avec le futur télescope spatial James Webb, on devrait pouvoir essayer de détecter en fait des atmosphères, s'il y en a, plus terrestres, on va dire.
Alors, des 7 planètes que vous dénombrez, quelles sont les plus intéressantes à vos yeux si on parle recherche de la vie ou au moins de l'eau ?
Alors, c'est la particularité de ce système, c'est vraiment que c'est l'ensemble des planètes qui nous intéressent parce qu'elles vont échantillonner, en fait, dans un même système, des différences qui sont probablement liées à la distance à l'étoile. Donc, ça nous intéresse pour toutes ces planètes. Alors, il y en a certaines d'entre elles qui sont à des distances et surtout à des insolations, parce qu'en termes de distance, c'est un système extrêmement compact par rapport au nôtre, puisque les planètes se trouvent à entre 1 et 6% de leur étoile de la distance Terre-Soleil. Donc, c'est toute petite fraction. Mais l'étoile étant 2000 fois moins lumineuse que le Soleil, ça leur donne des températures qui, pour la plus proche, on va dire, sont de l'ordre de celles de Mercure, et pour la plus éloignée, sont un petit peu plus froides que Mars. Donc, on va avoir dans ces 7 planètes, certaines qui ont des températures proches de celles de la Terre. Et donc, on aimerait enfin pouvoir trouver une planète qui a à la fois les caractéristiques de la Terre en termes de masse et de taille, mais qui aussi a de l'eau liquide. Alors cette eau, on peut essayer de la détecter en sondant l'atmosphère. Donc ça, on n'y est pas encore parvenu, mais c'est normal, il nous faudra le télescope spatial James Webb. Mais en mesurant très précisément les masses et les rayons, on a accès aux densités. Et globalement, dans ce système-là, il s'avère que les densités sont plus faibles que celles de la Terre. Elles se rapprochent, par exemple, plutôt de densités qu'on va trouver dans les satellites glacés des planètes géantes, vous savez, Europe, Ganymède, Callisto. Et donc, ces densités sont indicatrices de la présence de beaucoup de composés volatiles, et dont, vraisemblablement, de l'eau. Donc, c'est une indication, c'est sûrement pas une preuve formelle. Mais donc, on pourrait être en présence de planètes qui sont à la bonne distance en termes de température, et qui, en termes de composition, dispose d'eau. Parce que c'est bien beau d'avoir une planète à la bonne distance, mais s'il n'y a pas une goutte d'eau, on n'est pas dans des conditions propices à ce qu'on pourrait appeler l'habitabilité.
Alors pour ce qui est de l'eau, là vous parlez encore au conditionnel, hein, rien n'est certain.
Oui, oui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de découverte aujourd'hui majeure sur ce système, mais simplement on progresse, c'est-à-dire qu'à force d'observation, on a accumulé maintenant plus de 200 transits, et en les chronométrant très précisément, en fait, on voit les petites irrégularités des orbites. Parfois, les transits, c'est-à-dire le passage de la planète devant l'étoile, arrivent un petit peu en avance, parfois un petit peu en retard. Et ces irrégularités, elles sont liées aux interactions gravitationnelles des planètes entre elles. C'est ainsi, par exemple, que Le Verrier, en étudiant les irrégularités de l'orbite d'Uranus, avait prédit l'existence et la position de Neptune. C'est ce type d'interaction qui nous permet, en fait, de peser les planètes. Donc, à mesure qu'on cumule ces chronométrages, eh bien, on raffine la masse. À mesure qu'on cumule les transits, on raffine aussi l'estimation du rayon. Donc, on a une densité qui s'améliore, une précision de densité qui s'améliore. Si on s'arrêtait aujourd'hui, ben non, je pense que ce serait pas suffisamment précis pour être conclusif, pour être affirmatif sur la présence d'eau. Mais on va y arriver. Ouais. Et globalement, c'est là où c'est intéressant, c'est que autant on peut se tromper sur une planète, les sept planètes quasiment semblent globalement avoir des densités plus faibles que la Terre, qui implique des quantités d'eau supérieures à ce qu'on a sur Terre.
C'est quand même incroyable ce que vous nous racontez, Franck Celsis, parce que ces observations, en tout cas cette présence d'eau que vous traquez, on parle quand même de planètes qui sont à 39 années-lumière d'ici, donc on a les outils aujourd'hui pour faire ces observations.
C'est ce système est bien gentil de nous présenter. C'est possible en fait. C'est-à-dire que on aurait une planète isolée autour de cette étoile. On pourrait très bien mesurer son rayon, mais sa masse, on n'en aurait aucune idée. Donc ce système est très sympathique. Il nous présente ces irrégularités d'orbite qui nous permettent de les peser. Et effectivement, la densité d'une planète, c'est un diagnostic très fort sur sa composition. Alors on a des dégénérescences, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des planètes de faible densité qui n'ont pas d'eau, mais qui par exemple ont une atmosphère d'hydrogène, comme Uranus ou Neptune. Et ça, ce sont les observations Hubble qui ont permis d'éliminer cette hypothèse-là. On ne s'attendait pas à ce qu'elles en aient, parce qu'on pense qu'il faut des planètes de beaucoup plus forte gravité pour retenir ce type d'atmosphère, mais néanmoins, on voulait vérifier. Donc, ces faibles densités ne sont pas explicables par des atmosphères riches en hydrogène. On en revient donc aux ingrédients habituels, c'est-à-dire un noyau de fer, de la roche et de l'eau. Et ces planètes semblent avoir des densités suffisamment faibles pour qu'on puisse dire que, très vraisemblablement, elles sont riches en eau. Mais à nouveau, dans un an, deux ans, on sera beaucoup plus précis dans notre diagnostic.
Allez, dernière question, très vite.
Et oui, on parle du futur. Donc, en 2019, il y a un nouveau télescope qui va vous faciliter la vie. C'est le James Webb Télescope. Et on va pouvoir aller jusqu'où concernant TRAPPIST avec ce nouveau télescope?
Alors, ce qui va être intéressant avec le James Webb, c'est que là, on va pouvoir tenter de détecter cette espèce d'anneau que va constituer l'atmosphère autour de la planète. Lors de son passage devant l'étoile, cet anneau atmosphérique, c'est l'âme de l'atmosphère, filtre la lumière de l'étoile. Et simplement, une atmosphère comme celle de la Terre, elle s'étend sur quelques dizaines de kilomètres au-dessus du rayon. C'est un effet infime. Donc avec HST, on pouvait voir une atmosphère de plusieurs centaines de kilomètres, mais avec James Webb, on va pouvoir voir des atmosphères plus terrestres. Ce sera très difficile à réaliser, mais c'est faisable.
Ce qui fait qu'on va continuer d'explorer ce système TRAPPIST dans le futur et on vous écoutera à ce sujet.
Merci beaucoup Franck Celsis.
Avec plaisir.
Et merci aux équipes de France Bleu Gironde. Merci Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les virus qui nous tombent du ciel, des chercheurs de l'université de Colombie-Britannique ont quantifié pour la première fois les virus transportés par le vent de la surface de la Terre vers la troposphère. Chaque jour, c'est plus de 800 millions de virus par mètre carré, l'équivalent de 25 virus par personne, qui sont déposés dans cette couche et qui sont susceptibles de retomber au sol, balayés au-dessus de 2500 mètres d'altitude par de petites particules provenant de la poussière et de l'embrun. Eh bien, ces virus parcourent parfois de longues distances, c'est ainsi selon les chercheurs qu'on retrouve des virus génétiquement similaires dans des environnements pourtant très différents à travers le monde. Un relooking pour l'homme de Cheddar vivant il y a plus de 10 000 ans. Ce premier britannique moderne était jusqu'à aujourd'hui présenté avec les yeux bruns et la peau claire. Et bien grâce à une nouvelle analyse de son ADN faite à partir des os de son crâne, des chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle et de l'University College de Londres ont découvert qu'il avait en réalité les yeux bleus et la peau sombre. Combinaison très surprenante pour un britannique. Et bien ses tribus avaient immigré en Grande Bretagne à la fin de la dernière glaciation, la pigmentation claire étant un trait surtout retrouvé en Europe du Nord. La découverte suggère que cette caractéristique serait plus récente que prévu. Un buste plus fidèle donc a pour l'occasion été recréé à l'aide d'une imprimante 3D. Et puis pour terminer, un scarabée passé maître dans l'art de l'évasion, le bombardier, petit coléoptère d'une vingtaine de millimètres, est capable de survivre plus d'une heure dans l'estomac d'un crapaud japonais. Avant de s'en échapper grâce à une arme secrète, il expulse par l'arrière de son abdomen un puissant jet de liquide corrosif à plus de 100 degrés Celsius. Des chercheurs de l'université de Kobe au Japon ont tenté de comprendre l'efficacité de ce spray face au crapaud. Ingéré par l'animal, le bombardier libère donc son poison une fois dans l'estomac du batracien, ce qui déclenche un vomissement forcé de la grenouille, donc dans 43% des cas. Retrouvez la vidéo de la scène sur le Facebook de l'émission.